Voilà. Donc après ces 2 mois d'interruption, on revient ce matin à notre lettre aux Hébreux et peut-être plus particulièrement aujourd'hui au chapitre 9 que nous allons lire dans un instant. Je veux juste rappeler à tout un chacun donc, que les enregistrements des précédents enseignements sur cette lettre aux Hébreux sont disponibles sur CD. Donc j'en ai quelques-uns ici, mais en fait il y en a beaucoup qui sont sur notre site internet qui est en cours de réfection. On espère avoir les choses un peu opérationnelles d'ici quelques semaines. On y travaille en tout cas. Alors je vais pas reprendre en détail les éléments que nous avons déjà étudiés en introduction dans les premiers chapitres, il y a déjà plus qu'un an, je crois. Mais il est impératif de bien avoir à l'esprit le contexte et le profil de l'auteur, comme d'ailleurs les destinataires de cette lettre, pour bien comprendre un peu le sens des propos de cette lettre. Parce qu'ils sont quand même un élément clé de lecture pour comprendre l'intention de l'auteur dans ce qu'il a voulu transmettre et communiquer à travers cette lettre. Alors permettez-moi un bref rappel du contexte de notre lettre et de son auteur, notamment pour ceux qui prendraient un peu le train en route, ce qui est quand même beaucoup d'entre vous. La lettre témoigne de la compréhension du salut en Yeshua à une époque par des hommes qui, comme nous, n'ont pas été les témoins premiers de la vie de Yeshua. Donc ils nous ressemblent un peu, quelque part. L'auteur est sans doute un érudit juif qui maîtrise parfaitement la langue grecque, mais aussi le judaïsme et ses rituels. Du reste, cette lettre aux Hébreux est écrite dans le grec le plus parfait que l'on peut trouver dans tout le Nouveau Testament. Et il fera usage d'ailleurs de toute cette connaissance du judaïsme et de ses rituels dans de nombreuses références vétérotestamentaires, et il fera aussi beaucoup d'allusions à des pratiques juives connues de ses lecteurs. Les destinataires de la lettre sont très certainement des juifs qui connaissent parfaitement la loi et les prophètes et qui ont cru en Yeshua par la prédication de l'évangile qui leur a été annoncée, mais qui sont en tension, subissant des persécutions et probablement aussi tentés par un repli sur soi, voire même peut-être par l'apostasie, de renoncer même à leur foi à cause de la pression qu'ils subissent. C'est donc à la fois un avertissement et un encouragement que souhaite adresser l'auteur à des hommes et des femmes qui seraient tentés de renoncer à leur foi sous la pression de persécutions diverses dont ils peuvent être l'objet. Nous sommes d'ailleurs d'une certaine façon confrontés en certains pays à une tension tout à fait semblable. L'exhortation de l'auteur de la lettre aux Hébreux est donc, à mon sens, non seulement très pertinente, mais peut-être aussi d'une étonnante actualité. Il suffit de songer à beaucoup de nouvelles que nous entendons au sujet de persécutions ici et là dans notre monde. Alors dans le chapitre précédent, donc le chapitre 8, nous étions déjà frappés par l'extraordinaire construction de l'argumentaire de l'auteur, présentant une dualité improbable entre la circonstance pour des Juifs, entre le parfait et l'imparfait, entre l'ombre et la réalité ou le véritable. Tout ça sont des termes qu'on retrouve dans le chapitre 8, cette opposition ou cette dualité entre des mots, des termes qui s'opposent a priori. S'agissant de l'alliance de Dieu, il opposait même la première avec la seconde alliance, la nouvelle et l'ancienne. On avait un peu toujours ce rapport un peu étrange et ambigu entre ce qui a pu être du passé et ce qui est du présent ou de l'avenir. Et cette rhétorique pouvait surprendre, mais il n'en demeurait pas moins que l'intention de l'auteur restait de mettre en valeur la supériorité de l'espérance attachée à la foi en Yeshua, le Messie Sauveur. Et c'est certainement ce qu'ils avaient besoin d'entendre dans le contexte qui était le leur. Cette espérance étant une ancre solide au milieu de l'épreuve. Ramenant le lecteur à la réalité présente, l'auteur amenait nécessairement les destinataires de son propos à considérer, toujours dans cette dualité d'un avant et d'un après, et même plus précisément d'ailleurs d'un présent. Forcément, le présent prend le pas sur le passé, l'éphémère disparaît au profit d'une réalité céleste, l'éternité devant finalement ce qui est limité ou temporel. Notre chapitre 8 s'achevait avec le verset 13 par une étonnante expression que je vais lire. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Dans l'esprit des contemporains de la lettre, ce qui a vieilli ou qui touche à la vieillesse a une connotation péjorative et même, on peut dire, négative. On peut certes honorer le vieillard, mais ce qui a vieilli, finalement, touche nécessairement à la mort et est voué à disparaître. Une alliance qui a vieilli est donc sur le point de disparaître. Est-ce là une manière pour l'auteur d'annoncer la fin de l'économie lévitique, déjà sur le déclin, d'ailleurs, à ce moment-là? C'est une question que je laisse ouverte. Seul le prophète Jérémie, d'ailleurs, au chapitre 31 de son livre, emploie dans le Tanakh le terme nouveau associé au mot alliance. Ceci étant, on retrouve cette association ailleurs dans l'Évangile et dans les deux lettres de Paul aux Corinthiens. D'abord avec Luc, en rapport avec la coupe de l'alliance, qu'il définit ainsi. Donc dans Luc 22, verset 20, le terme en grec, c'est le mot néos, que l'on connaît bien en français, néo quelque chose, signifie quelque chose de nouveau. Quand il est dit au verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et ce sont là même les paroles de Yeshua prononcées lors du repas de Pessah et associant la coupe à son sacrifice à venir. Le second passage est d'ailleurs tout à fait semblable, il reprend les mêmes paroles de Yeshua. 1 Corinthiens 11, 25, toujours le terme néos. Hein. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Le troisième passage, en revanche, met l'accent sur la nature de cette alliance et le fruit qu'elle produit. 2 Corinthiens 3, verset 6, on a toujours le même terme néos. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre et l'esprit s'opposent ici, encore, dans une dualité qui fait valoir la seconde comme étant forcément supérieure par le fruit qu'elle produit. L'une produit la mort, l'autre la vie. Loin de considérer la première alliance comme, dès le départ, négative, car produisant la mort, cette dernière est, par contraste avec la seconde, porteuse de limites atteignant la mort, à cause de la répétition nécessaire des sacrifices et aussi pour d'autres raisons encore abordées dans le chapitre 9 que nous allons voir ce matin. Dans la lettre aux Hébreux, le mot « nouveau » se retrouve à trois reprises. Il est cependant traduit tantôt à partir du terme Kainos, en hébreu 8, verset 13, en fait le verset qu'on a lu tout à l'heure, ou Néos, que l'on a vu déjà dans l'Épître aux Corinthiens, mais qu'on retrouve aussi donc, au chapitre 9, verset 15, et au chapitre 12, verset 24. Le terme Kainos traduit une connotation positive beaucoup plus appuyée, tandis que le terme Néos évoque beaucoup plus simplement la temporalité, quelque chose de nouveau et forcément plus récent. Le caractère nouveau renforce le vieillissement de ce qui est finalement plus ancien. Dans le contexte des alliances, les deux termes employés indifféremment traduisent aussi bien la qualité supérieure de l'alliance nouvelle que sa « jeunesse » entre guillemets, au regard de celle qui est plus ancienne. Au chapitre 9, l'auteur poursuit sa démonstration par la multiplication de ces dualités propres à encourager ses lecteurs à demeurer ferme dans la réalité présente, porteuse d'espérance, par-delà la mort, qui attend peut-être certains d'entre eux. D'ancienne et nouvelle alliance, il en sera encore question dans ce chapitre 9, mais aussi de deux tabernacles avec la répétition nécessaire des sacrifices pour l'un contre le sacrifice unique et perpétuel pour l'autre. Les ordonnances charnelles de l'un s'opposent aux dispositions permanentes de l'autre qui touchent à la conscience même du justiciable. Et en abordant ce chapitre 9 de la lettre aux Hébreux, eh bien, il nous faudra toujours garder à l'esprit que les destinataires de la lettre sont en tension et risquent de sombrer à un moment ou un autre dans l'apostasie, le reniement sous la pression de leurs persécuteurs. L'éphémère et le temporel doivent laisser place au durable et à l'éternel. Mais c'est dès à présent que l'auteur veut faire sentir à ses lecteurs l'espérance qui est la sienne. Lisons, on va lire maintenant le texte, l'entièreté d'ailleurs de ce chapitre, chapitre 9, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais le Messie est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Messie, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « C'est ici, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car le Messie n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme sous le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, De même, le Messie, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà un texte dense et compliqué peut-être à qui le lit peut-être pour la première fois. J'espère que vous ne le lisez pas pour la première fois parce que là, sinon ça va être un peu chaud. En l'étudiant, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mots, de termes. Bon, je ne suis pas un spécialiste en grec, mais on va faire beaucoup de grec un peu ce matin quand même, et d'hébreu un peu. Mais il y a pas mal de difficultés, pas mal de points difficiles à comprendre et à expliquer également. Donc j'espère qu'on va arriver à cheminer dans ce texte. Alors, c'est sûr qu'une fois de plus, notre texte apparaît un peu hermétique, à qui n'est pas familier avec les us et coutumes des sacrificateurs de l'Alliance mosaïque. Mais on va essayer quand même de cheminer ensemble. L'auteur de notre lettre commence par décrire brièvement et sans trop entrer dans les détails, les éléments du tabernacle construit par Moïse dans le désert. Il dit ceci, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Les pains de proposition, c'était donc les deux piles de six pains qui faisaient chacun 3,5 kg de pain sans levain qui étaient là pour représenter les 12 tribus devant l'Éternel. Derrière le second voile se trouvait le second voile, donc la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints ou le lieu très saint, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Alors si vous êtes un peu familier avec le livre de l'Exode, je pense que ces éléments vous reviennent à la mémoire. Au-dessus de l'arche étaient les kéruvim, donc les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire, c'est-à-dire en fait le couvercle de l'arche. Mais, dit l'auteur, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc il ne veut pas entrer là dans le détail, il considère que les destinataires de sa lettre sont bien au fait de ces choses. En tout cas, l'auteur ne semble pas vouloir développer ce qui semble être une connaissance tout à fait familière de ses lecteurs. Les éléments ainsi mentionnés ne sont pas expliqués ni même mis en perspective d'une manière plus ou moins figurative. Il s'agit surtout de brosser un tableau qui va s'opposer à une autre réalité dont la qualité est évidemment bien supérieure. On peut s'étonner que l'auteur ne présente pas ici le temple, qui probablement encore à ce moment-là, comme on l'a déjà vu dans les fois précédentes, le temple est probablement encore debout. Mais ce n'est pas du temple qu'il parle, c'est du tabernacle qui, lui, en revanche, a disparu depuis longtemps. Mais pour sa démonstration, il importe pour l'auteur de marquer avant tout une différence notable entre l'original et la copie, reflet de ce dernier. Il y a toutefois quelques difficultés dans cette description, et on va aller voir ça un peu en détail. Le sanctuaire terrestre, ainsi nommé, s'oppose clairement au sanctuaire céleste qui lui a servi de modèle. Le reflet est voué à disparaître, comme tout ce qui est éphémère. La nature même du modèle céleste a intrinsèquement plus de valeur que ce qui est terrestre et voué à disparaître. Peut-être même que l'auteur indique implicitement que le temple, qui est encore debout, donc à ce moment-là, va lui aussi disparaître comme le tabernacle, n'étant en fait lui aussi que le reflet d'une réalité céleste. On a déjà évoqué d'ailleurs dans la fois précédente, le chapitre 8, que même les rabbanim, à l'époque du 1er siècle, avaient reçu, compris à travers plusieurs signes, que même le temple allait lui aussi disparaître. Mais plus que les objets, c'est le culte lui-même que l'auteur veut mettre en exergue et notifier à ses lecteurs en quoi le culte présent avec Yeshua s'accorde parfaitement avec le tabernacle dans le ciel. Au verset 4, on a toutefois une difficulté, la première. L'autel d'or pour les parfums est présenté dans le lieu très saint. Or, dans la Torah, il est en deçà du voile, c'est-à-dire dans le lieu saint. Dans le lieu qui était plus accessible par les sacrificateurs. Certains pensent qu'il s'agit en fait de l'encensoir utilisé par le souverain sacrificateur pour apporter le jour de Kippour des braises de l'autel, qu'il a pris sur l'autel, qui lui est à l'extérieur du tabernacle, et que cet encensoir est utilisé pour apporter les braises, et donc sur lequel on déposait ensuite des parfums qui provoquaient une fumée odoriférante. Sauf que celui-ci ne reste en général pas en ce lieu après son usage, et il devrait naturellement se trouver plutôt près de l'autel, puisque c'est là qu'on prend les braises. D'autres suggèrent que sa mention ici est davantage à mettre en rapport avec la liturgie même de Kippour. En effet, dans la démonstration, vise à souligner les limites temporelles et spatiales de cet office une fois par an. La présence de l'encensoir ou de la table des parfums au-delà du voile est une sorte de témoignage de l'action du grand prêtre le jour de Kippour. Mais on va poursuivre au verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Alors, il apparaît clairement que le temps est en lui-même une clé de lecture de cette démonstration. L'office de Kippour se caractérise par des limites temporelles et spatiales claires. D'abord, les sacrificateurs sont seuls à officier dans le lieu saint. C'est pas tout le monde. Mais à l'office de Kippour lui-même, qui n'a lieu qu'une seule fois par an, et en même temps doit se répéter tous les ans. Donc on a cette notion de temps qui est bien marquée ici. Qui plus est, seul le grand prêtre a accès au lieu très saint. Donc l'accès ne peut se faire en plus, par ailleurs, que avec du sang, celui d'une victime innocente. Verset 8, poursuivons. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits. Sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Les deux tabernacles coexistent, mais ne peuvent en réalité remplir leurs fonctions simultanément. Le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'Esprit Saint, montrait ainsi le rôle du tabernacle terrestre que donc ce tabernacle terrestre devait préparer le peuple jusqu'à un temps de réforme, que je mets entre guillemets, qui est venu avec l'avènement de Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Ce qui devait disparaître a disparu au profit d'une réalité céleste permanente. Le texte comporte ici plusieurs difficultés. Le verset 9, ici, est au présent, avec de surcroît la mention « le temps actuel ». Que recouvre alors cette mention actuelle où sont présentées encore des offrandes et tout un tas d'autres choses? Le tabernacle a évidemment disparu, le temple, lui, est encore en fonction, mais va bientôt disparaître. D'autres pensent qu'il s'agit d'une actualité qui recouvre, de fait, toutes les prétentions humaines à vouloir continuer par les sacrifices et offrandes animales à trouver grâce devant Dieu. Que ce soit au travers du culte lévitique ou d'ailleurs d'un tout autre culte, même païen. On peut plus simplement relier cette hypothèse au fait que ce qui caractérise cette époque actuelle, telle que mentionnée dans ce verset, est la limite de son action, loin de la conscience humaine. D'autres pensent que cette dichotomie entre le culte visible et charnel et la conscience souillée est une caractéristique tout simplement des contemporains de Yeshua. L'expression « rendre parfait sous le regard de la conscience », on voit une expression qu'on trouve dans la version seconde. Cette expression d'ailleurs est plutôt bien traduite en français. La conscience en grec, synéidésis, ici s'oppose à l'aspect extérieur et visible de l'individu. On pourrait traduire aussi par l'intériorité de l'homme, son être intérieur opposé à son corps ou à sa chair. Et il ne s'agit pas ici simplement de l'intériorité dans un sens moral. Se pose par ailleurs la question du caractère charnel des dispositions du culte dans le tabernacle. Les Israélites n'étaient pas seulement amenés à confesser leurs péchés, extérieurement identifiés, ceux qu'on pouvait clairement reconnaître. La conscience et le cœur étaient aussi en considération dans leur culte, même à l'époque de Moïse. Le terme charnel est donc sans doute ici à mettre en regard en opposition au regard de l'intériorité dont il était question précédemment. Il est évident que les limites du culte dans le tabernacle sont liées aux limites d'investigation des sacrificateurs. Eux-mêmes n'étaient capables réellement que de voir les actions des hommes. Celui qui commettait un meurtre, on pouvait faire une enquête et arriver à aboutir à sa culpabilité. Mais quelqu'un qui a simplement la pensée du meurtre, les sacrificateurs ne pouvaient pas juger de ce type d'action, parce que ça touche à la conscience et au cœur. Donc on comprend vite les limites finalement de l'action et du culte dans le tabernacle. Que signifie par ailleurs le terme relèvement ou réforme quand il est dit qu'il doit aboutir jusqu'à un temps de réforme ou de relèvement selon les traductions? Nous retrouvons ce même mot en grec dans Acte 25, verset 2, quand il est dit « Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. » Alors ici, on comprend bien qu'il s'agit de modifier, sans doute en profondeur, les institutions sans modifier pour autant les structures. La réforme n'est pas une révolution. Et aussi bien dans ce verset d'Acte 25, où on comprend que politiquement, il y ait des réformes, et même on en aspire aussi dans notre pays, mais sans pour autant bouleverser le fond, eh bien ici, le terme en grec signifie la même chose. Dans Hébreux 7, 18 et au chapitre 8, verset 13, on aurait pu penser que la réforme soit en quelque sorte plus radicale, avec l'abrogation ou même la suppression dont parle l'auteur par ailleurs. Mais je pense que l'époque de réformation dont il est question ici au verset 10, et qui a priori est à relier à l'époque de Yeshua, traduit la transformation de l'ombre à la réalité des choses qui étaient en fait annoncées. La venue de Yeshua s'inscrit bien dans le cadre du culte charnel, donc le culte du Lévitique, dont parle l'auteur, mais sa mort et son sacrifice nous projettent dans le monde à venir et une perfection qu'il n'était pas possible d'atteindre dans la réalité du culte ici-bas. Le prophète Jérémie est en fait le seul à évoquer lui aussi un temps de réforme dans le cadre de l'Alliance nouvelle. Donc Jérémie 31, verset 8. « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Donc on a bien l'expression « nouvelle » ici. « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ici, on n'a pas le mot réforme, mais on comprend qu'il y a une transformation intérieure qui correspond à cette démarche que Dieu veut faire dans la vie des Israélites et les amener à la fois à une réforme en profondeur de leur cœur et en même temps une action plus permanente au-delà de ce qu'ils avaient vécu jusque-là. La formulation ou les termes de la Nouvelle Alliance dans ce chapitre emblématique de Jérémie 31 sont très révélateurs. d'une transformation intérieure qui dépasse ce qui est de l'ordre du visible ou du charnel. On ne touche pas à des points de détail extérieurs, mais la transformation vient de Dieu et elle vient de l'intérieur. On reviendra dans un moment sur la nature du contrat ainsi formulé dans Jérémie 31. Mais poursuivons, verset 11. Mais le Messie est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, mais il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors le mouvement de balancier de l'auteur nous ramène à présent à la réalité qui est dans le ciel. On était sur la terre, on revient dans une réalité dans le ciel. Yeshua, comme souverain sacrificateur des biens à venir, a traversé le tabernacle qui est dans le ciel pour entrer une fois pour toutes dans le lieu très saint, avec son propre sang, pour nous obtenir une rédemption éternelle, un salut supérieur à ce que pouvait accomplir le grand prêtre sur la terre. Alors, mine de rien, dans ce passage, les difficultés sont nombreuses. Les biens à venir associés au souverain sacrificateur en la personne de Yeshua sont soit le salut éternel de Dieu, soit autre chose qui pourrait constituer la récompense des rachetés dans le ciel. La question de la traversée du tabernacle ou de la tente dressée dans le ciel turlupine bien des théologiens. Comment imaginer en effet le ciel borné de limites à traverser ? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question sous cet angle-là. Peut-on concevoir dans le ciel même, des lieux saints, entre guillemets, et d'autres qui le seraient moins ? Sans doute faut-il voir dans le dualisme de l'auteur un renforcement de l'opposition entre ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel. Je ne suis pas certain que le tabernacle, modèle par excellence du tabernacle sur la terre, soit l'objet d'une fonctionnalité comparable à ce qu'il est sur la terre. En effet, dans la mesure où un seul sacrifice est présenté une fois pour toutes dans ce tabernacle céleste, quel regard porter sur le caractère éventuellement plus sacré d'un lieu par rapport à un autre ? Yeshua traverse le tabernacle et s'approche de Dieu avec son propre sang, non pour lui-même, mais pour nous ouvrir le chemin à nous, pécheurs pardonnés. En réalité, il n'est pas pour nous d'autre voie possible que celle d'un accès libre à la présence divine. La traversée du tabernacle dans le ciel ne suppose pas qu'il y ait des lieux sacrés et d'autres profanes dans le ciel. Mais poursuivons, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, ici il est fait allusion à la vache rousse, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Messie, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ? Nouveau retour de balancier, l'auteur revient à la réalité sur la terre et le culte dans le tabernacle terrestre. Les sacrifices d'animaux atteignent leurs limites par le fait qu'ils ne peuvent purifier au regard de la conscience de l'homme qui s'approche de Dieu. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'homme qui s'approche de Dieu dans le tabernacle sur la terre le fait pour des faits et pour des transgressions qui sont identifiables et qui sont de l'ordre du visible. Mais en ce qui concerne la conscience, surtout si elle est bien dissimulée, eh bien, le sacrificateur ne peut opérer un sacrifice pour le justiciable. Les sacrifices d'animaux atteignent donc des limites. Le sacrifice est cependant limité par la nécessité aussi d'être renouvelé régulièrement. Une fois qu'une action est passée, il faut encore la renouveler pour une autre fête, etc., etc. Donc, les sacrifices sont multipliés. Il fallait donc qu'un sacrifice plus excellent, capable d'accomplir une rédemption totale et autrement plus permanente, ait lieu. En quoi le sacrifice de Yeshua est-il plus excellent que ceux des animaux offerts ? Le sang innocent du Messie est plus précieux que celui des animaux offerts. Les animaux sacrifiés devaient être certes sans défaut, mais ils sont offerts cependant par un tiers. Ils ne s'offrent pas eux-mêmes. Yeshua offre de lui-même, volontairement, son propre sang, c'est-à-dire sa propre vie. Hébreux 10, verset 8, « Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yeshua, le Messie, une fois pour toutes. Alors, on a un peu anticipé en parlant d'Hébreux 10, mais ici, il est clair, Yeshua a offert lui-même sa vie pour que, une fois pour toutes, nous puissions être lavés et purifiés de nos fautes. Yeshua est par ailleurs reconnu sans défaut moral dans Jean 8, verset 46, ou Hébreux 4, 15, cela nous est rappelé. Il est lui-même, de son vivant, sans défaut, reconnu sans faute. Comme on l'a déjà vu, Yeshua est à la fois le sacrifice qui s'offre de lui-même et le sacrificateur qui fait l'office pour l'expiation de nos fautes. Cela, évidemment, aucun animal ne pouvait le faire. Autre difficulté de ce verset, de ce passage, l'expression « par un esprit éternel ». Donc, il s'est offert par un esprit éternel, est ici un peu vague en français, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Certains pensent que l'action du Messie est le fruit du Saint-Esprit, ou encore que l'action volontaire de Yeshua tient de sa nature divine. En grec, on pourrait plutôt suggérer que l'esprit éternel dont il est question est plus simplement l'esprit de Yeshua lui-même, qui volontairement s'offre en sacrifice. Mais poursuivons encore au verset 15. « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » Alors l'auteur fait intervenir un terme que nous avons déjà vu par ailleurs, celui de « médiateur ». L'alliance suppose deux parties ou plus. Un médiateur intervient afin que les termes de l'alliance soient préservés entre les parties. Alors, on a déjà observé dans le texte de Jérémie 31, que nous avons lu tout à l'heure, que le peuple n'a pas été fidèle pour observer les termes de la première alliance, d'où la nécessité d'en établir une seconde, dont la validité serait garantie par les termes d'un contrat nouveau. Ayant la forme, et ici c'est aussi intéressant, c'est nouveau, ayant la forme d'un testament. Mais je vais y revenir dans un instant. Arrêtons-nous juste un moment sur ce que propose l'auteur de notre lettre à propos du rachat des transgressions commises sous le régime de la première alliance. Les animaux sacrifiés ne pouvaient satisfaire la justice divine que sur le plan extérieur. Ils étaient en quelque sorte la préfiguration du sacrifice plus excellent qui interviendrait pour sceller la nouvelle alliance en son temps. Yeshua est ainsi le médiateur invisible, en quelque sorte, qui, pour les Israélites s'approchant du tabernacle, intercède en leur faveur pour le pardon de leurs fautes. Le sang des boucs illustre d'une certaine manière celui du Messie qui sera porté au-delà du voile une fois pour toutes. Le verset 16 nous introduit donc dans une nouvelle dimension que l'auteur de notre lettre veut aborder à présent, celle de l'alliance qui a la forme d'un testament. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine et de l'écarlate, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur les ustensiles du culte, Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors on rentre dans une dimension juridique, du droit. Qui eût cru que ce matin nous allions faire un peu de droit ? Pour qu'un testament soit valide et exécutoire, il faut que la mort du testateur soit constatée. Et c'est là un premier principe qui, de fait, pour la première alliance, a nécessité que du sang soit versé et ce sang soit même aspergé, projeté sur le tabernacle et tout ce qu'il contient. Certains commentateurs se sont interrogés sur la pertinence à traduire le mot par testament plutôt que par le mot alliance. En grec, le mot alliance se dit syntéké. Or, la Septante, donc la traduction faite par les rabbins trois siècles avant la venue de Jésus, ont préféré le terme diatéké, qui comporte une dimension juridique du pacte entre les parties, d'où le choix de nos traductions de parler ici de testament. En considération de ce que j'ai déjà d'ailleurs évoqué avec la mort du testateur pour valider le testament, on peut s'étonner de ce choix aussi singulier. En effet, Dieu ne meurt pas. Dans le régime de la première alliance, et les animaux dont le sang est versé ne sont pas les testateurs. Ceci étant, dans la Torah, en hébreu, le terme brit, qui signifie alliance, sous-entend souvent un pacte entre deux parties, souvent inégales. Il suffit pour s'en convaincre de reprendre quelques passages comme celui de Genèse 15 entre Dieu et Abraham. Peut-être vous l'avez encore en mémoire. Donc Genèse 15, verset 7. C'est intéressant de voir comment Dieu établit ici un pacte ou une alliance, mais dont les parties sont totalement inégales. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel, je t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça, c'est ce que Dieu déclare à Abraham, mais ce qui est intéressant, c'est finalement les conditions. Abraham ne fait que partager les animaux en morceaux, et à l'époque, un pacte signifiait que si l'une des parties n'observait pas les conditions du pacte, il serait coupé en deux comme les animaux ici partagés. C'était une manière de signifier qu'il fallait s'engager à fond. Mais Abraham ne traverse pas, ne passe pas entre les morceaux. Seul Dieu le fera ici au verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, etc. Intéressant de voir qu'il n'y a que Dieu qui s'engage finalement dans ce pacte. Le passage du feu entre les morceaux coupés signifie en clair que seul Dieu s'engage formellement. La seconde alliance, la nouvelle alliance, est marquée par le sang versé du testateur, à savoir Yeshua lui-même. Le choix des rabbins, donc, qui ont traduit la Septante, probablement était le bon, puisque le Seigneur Yeshua, effectivement, est mort. Le testateur, celui qui s'est engagé, est mort. Et donc, le pacte peut ou plutôt le testament peut être exécutoire. La première alliance n'avait pas la forme d'un testament, tandis que la seconde est clairement formulée et orientée en ce sens. Jérémie ne s'y trompe pas, et dans le chapitre 31 de son livre, il définit les termes de ce testament. C'est intéressant que cette nouvelle alliance en forme de testament est formulée un petit peu à l'image de ce pacte avec Abraham. Dieu seul s'engage. Je ferai, c'est toujours je, c'est-à-dire l'Éternel, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La mort du testateur permet l'exécution des propositions énoncées ici. L'élément central est le pardon des péchés qui s'accomplit par le sang versé du testateur. Car ce qui relie les deux alliances, les alliances testament, c'est le sang versé. Sans le sang versé, il n'y a pas de pardon. C'est un point capital que le judaïsme a toujours fortement martelé, et je fais grâce de toutes les citations du Talmud et des écrits rabbiniques qui, en fait, reprennent la même idée de Lévitique 17, verset 11. « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. » C'est le sang qui sert d'expiation pour les Israélites. « Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Par le sang. Le sang versé représente une vie livrée pour le pardon des péchés. Pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, le don de la vie de Yeshua, une offrande volontaire, constitue bien un sacrifice expiatoire. Dans le contexte hellénistique de cette époque, voire, mais aussi sans doute encore aujourd'hui, la notion de sacrifice sanglant est une notion difficile à admettre et même à recevoir. Pire encore, le sacrifice humain heurte la conscience humaine, qui plus est celle d'un innocent pour des coupables. Alors, je ne reviendrai pas sur les épisodes que j'ai déjà abordés maintes fois au sujet de l'aqueda d'Isaac, de la demande extraordinaire de Dieu à Abraham de sacrifier son fils Isaac, de le mettre à mort, de l'égorger, mais aussi de le brûler. On oublie un peu ce détail d'ailleurs. Il s'agit d'un holocauste, c'est égorger, mais aussi réduire en cendres. Dieu demande ça à Abraham comme une épreuve. Ça, nous le savons lui, mais lui, il a dû réfléchir longtemps par rapport à ça. Mais aussi dans la paracha de Pinchas, qui est cet épisode dans le livre des Nombres, où Phinéas en français, hein, Pinchas, Phinéas en français, va tuer un homme pour ensuite s'entendre déclarer par Dieu qu'il établit avec Pinchas une alliance de paix. Première fois qu'on a cette occurrence, d'ailleurs, où un homme meurt pour faire l'expiation pour tout le peuple. C'est là un passage très intéressant qui nous montre que l'intention de Dieu est la seule voie possible dans la perspective de cette alliance de paix, cette alliance éternelle, c'est la mort d'un homme, la mort du testateur. En tout cas, c'est un sujet difficile dans le contexte de cette époque, pour les Grecs, mais aussi dans notre contexte d'aujourd'hui, qui est toujours de refuser la notion de sang versé pour le pardon des péchés. Mais poursuivons au verset 23, on avance quand même. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car le Messie n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il était entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. On reste toujours dans la dualité thématique de ce chapitre. Il s'ajoute toutefois une difficulté avec la mention due au verset 23, que les choses célestes aient besoin d'être purifiées par des sacrifices plus excellents que ceux évoqués dans la première alliance. Comment en effet imaginer qu'il y ait dans le ciel des choses souillées nécessitant d'être purifiées? Alors certains ont suggéré que ces choses dans le ciel étaient à prendre au sens large, un ciel extrêmement large, si on peut dire, sans qu'il soit vraiment défini jusqu'où. Le texte de l'Épître aux Colossiens nous éclaire peut-être un peu sur une option qui nous dépasse. Le sacrifice de Yeshua n'affecte pas seulement ce qui est sur la terre, mais ce qui se trouve dans le monde invisible. En effet, nous lisons Colossiens 1, verset 18. « Il est la tête du corps de l'Église. » Il est le commencement, parlant de Yeshua, hein. « Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui, c'est-à-dire Yeshua, réconcilier à tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Mais ici, nous n'avons pas accès à plus de détails. Il faut bien, on est un peu frustré peut-être, mais ici, il semble bien qu'il y ait une transformation, ou plutôt un effet de l'œuvre de Yeshua sur la croix, qui affecte aussi bien ce qui est sur la terre, ça on le comprend assez bien, mais aussi ce qui est dans le ciel. Quoi exactement, on ne sait pas. Alors, ne spéculons pas trop sur la portée du salut en Yeshua. En tout cas, il a plu à Dieu d'accomplir la rédemption sur la terre avec une portée au-delà, dans le monde céleste, dans des lieux qui, il faut bien le dire, peut-être nous échappent. Le texte du verset 23 suggère quand même que ces choses seraient de l'ordre du modèle dont on percevrait les reflets par ce qui est sur la terre. Mais bon, on n'a pas plus de détails, c'est difficile d'aller plus loin. D'autres suggèrent aussi que cette purification dans le ciel serait de l'ordre du symbole, comme lorsque le sacrificateur apporte la purification au-delà du voile, tandis qu'aucun péché n'y a été commis en ce lieu. On n'aura pas, finalement, je pense, de réponse définitive, en tout cas ici-bas, mais c'est un sujet intéressant. Le verset 24 a une expression « fait de la main de l'homme », parlant du tabernacle, qui, dans la Septante, est plutôt péjorative et désigne clairement l'œuvre de la main des hommes pour faire des idoles. L'œuvre du Messie est d'entrer dans le ciel, même pour comparaître devant le Seigneur et faire valoir, en quelque sorte, le mérite de son sacrifice en faveur des rachetés de la terre. On va doucement arriver au bout, verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert, plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alors la comparaison avec la faiblesse du sacerdoce terrestre demeure. Le souverain sacrificateur devait offrir chaque année le même sacrifice pour les péchés. Venir avec du sang étranger, pas le sien, celui des veaux et des boucs. Il n'en est pas de même du Messie qui est venu une seule fois, avec son propre sang, accomplir une rédemption parfaite et même, on peut dire, éternelle. Le péché lui-même se trouve aboli, nous est-il dit. Cela ne signifie pas que l'homme, évidemment, ne pêche plus, ce n'est pas le cas. Mais le pouvoir de nuisance du péché a été détruit par l'œuvre du Messie sur la croix. Et nous terminons avec les versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même le Messie qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors l'auteur de la lettre aux Hébreux revient finalement à l'exhortation qu'il ne veut pas perdre de vue, qu'il adresse à ses lecteurs. La mort est peut-être bien la perspective à court terme pour les croyants qui sont ses lecteurs en proie à la pression et aux persécutions. Le jugement est donc ce qui vient après la mort. Et ici on a un des rares passages qui clairement nous montre bien que la notion de réincarnation ne tient pas, puisqu'ici, après la mort vient le jugement. Il n'y a pas une nouvelle, comme dans le bouddhisme ou autre. Le jugement est donc ce qui vient après la mort. Cependant, pour ceux qui sont restés fidèles, c'est bien la rencontre avec le Messie lors de sa seconde apparition qui est la promesse et l'espérance à venir en vue du salut. Quelle plus belle promesse pouvaient attendre ces croyants juifs messianiques en proie au doute ou à la crainte? Et pour nous aussi, cette espérance, cette promesse est véritable. Alors, il nous faut conclure, et force est de constater que la densité de ces chapitres, comme parfois la complexité de la rhétorique exposée, nous font découvrir une multitude d'arguments propres à renforcer notre foi dans la perspective des épreuves qui peuvent nous attendre. La nouvelle alliance n'est pas un renouvellement de l'ancienne, comme parfois certains le suggèrent. Certes, la seconde s'enracine dans la première, mais il est clair que le Messie Yeshua est au cœur du salut révélé en son et son sacrifice nous ouvre la voie pour aller à la rencontre du Père dans le sanctuaire céleste. Ici-bas, il n'y a plus lieu de rechercher de nouveaux sacrifices et il n'est pas de sang profane ou étranger capable de purifier plus excellemment celui de Yeshua lui-même qu'il a versé pour nous. Eh bien, puissions-nous garder cela gravé dans nos cœurs et nos pensées et que nous puissions nous réjouir dans celui qui s'est livré pour nous.